Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir, d'ailleurs pour la dernière rencontre de l'année à la station Ozone. Et nous sommes très heureux en cette veille de vacances de vous proposer de prendre la route avec Bernard Benoliel et Jean-Baptiste Thoré à l'occasion de la nouvelle édition de Road Movie USA qui est paru il y a quelques mois chez Magnani Éditeur. Qui est en train de préparer manifestement une réédition des œuvres complètes de Jean-Baptiste Thoré. On attend l'édition pleine peau. Qui est un livre que vous aviez écrit, qui est paru une première fois en 2011 chez Ebeck, et qui reparaît aujourd'hui, augmenté, redensifié, ressaisi, pour essayer de comprendre effectivement ce qu'est le road movie. Alors, peut-être, je me disais, on va peut-être pas commencer par une définition du road movie d'abord, parce que c'est un peu l'objet du livre, que c'est justement essayer de réfléchir comment est-ce que ce motif traverse à la fois et le cinéma et l'espace et l'histoire américaine, mais essayer d'essayer de réfléchir comment justement ce motif a fonctionné quasiment sur toute l'histoire du cinéma comme un révélateur de l'histoire américaine. Alors, on va peut-être commencer par deux films qui, pour vous, sont absolument au cœur, sont l'une des matrices du road movie, c'est-à-dire le Magicien d'Oz 1939 de Fleming. Mais on y reviendra d'ailleurs parce que on dit Fleming parce que c'est une facilité, mais en fait, est-ce que c'est vraiment un film qui a un auteur? Ce qui est intéressant pour un film qui a connu un tel destin, de se dire que parfois les films sans auteur connaissent ce succès-là. Et puis de l'autre côté, un auteur absolu, puisque c'est Ford, avec Les raisins de la colère, qui est 39 aussi. Pourquoi, selon vous, ces deux films fonctionnent justement comme matrice, selon l'expression que vous employez, du road movie?
Je prends Le Magicien d'Oz, tu prends Les raisins de la colère.
Oui, d'accord, mais peut-être juste dire, pour bien comprendre, disons, le choix qu'on a fait au départ, c'est que ces deux films, Le Magicien d'Oz et Les raisins de la colère, datent tous les deux de 1939-1940, et le dire d'emblée, c'est, disons, 30 ans avant l'avènement, j'allais dire, officiel, du road movie tel qu'il est catalogué dans les histoires du cinéma. Donc, et l'autre, on reviendra peut-être sur cette distorsion, toujours est-il que le road movie officiellement naît ou est catalogué comme tel avec Easy Rider en 1969. Là, on est en 1939, donc 30 ans auparavant. Et l'autre chose qu'on a posée d'emblée et qu'on peut poser d'emblée, c'est que vous l'avez dit, le titre, c'est Road Movie USA et que pour nous, le road movie fait sens ou concept seulement dans ce pays-là. Alors, tu m'as dit que je prenais lequel et que tu prenais lequel.
La colère. Donc, je vais commencer par Le Magicien d'Oz. non, alors, ce que vient de dire Bernard est important et presque sans dévoiler un secret de fabrication, parce qu'il n'y en a pas vraiment. Mais en fait, quand on a commencé, nous, à travailler sur ces questions du road movie, qui, on y reviendra, en fait, n'est pas vraiment ni un genre, ni un sous-genre, mais plutôt une configuration proprement américaine et de la fiction américaine, parce que là, on parle de cinéma, mais on croise aussi beaucoup d'autres champs qui, liés à la littérature, à la peinture, etc. Quand on a commencé à travailler de façon extrêmement, je dirais, instinctive et naturelle, nous, en tant qu'amateurs de cinéma, écrivant de livres sur le cinéma, passant beaucoup de temps à voir des films, on s'est dit instantanément, le road movie, de façon presque un petit peu caricatural, bon, bah, c'est des années 70. Et c'est évidemment cette espèce de série de films qui va naître à partir d'Easy Rider en 69. Et c'est là, on sait qu'il va y avoir un moment d'âge d'or, bon, ou d'accomplissement, etc. Et lorsqu'on commence à faire ce livre, on a presque le sentiment que finalement, le cœur du livre, presque le point de départ, ça va être, en gros, Easy Rider. On va partir d'Easy Rider et voir ce qui s'est passé autour. Et à force de travailler, en fait, sur le concept, en essayant d'attraper et finalement cette idée du road movie, ce rapport entre la route et la fiction, qu'est-ce qui est en jeu dans la culture américaine avec ça, etc., on s'est rendu compte que ce qu'on avait pris, finalement, pour le point de départ d'un développement un peu euphorique que serait le road movie, alors Easy Rider, Macadam à deux voies, Le Canardeur, Alfredo Garcia, Vanishing Point, enfin, la liste est absolument infinie, ils s'en produisent quelques-uns tous les ans dans les années 70. Ce qu'on avait pris pour le point de départ était en réalité le point d'arrivée, le point d'accomplissement d'un genre, voire presque d'exténuation d'un genre, puisque après les années 70, on y reviendra sans doute, le road movie va se poursuivre, mais selon des modalités différentes. En fait, il se poursuit, mais il a déjà eu lieu, hein, comme avec une sorte de conscience de lui-même. Et donc, tout le travail qu'on a fait avec Bernard pendant un an et demi, finalement, ça a été de remonter le fil à partir d'Easy Rider, de faire un vrai travail, un rétro-travail, si on veut, et d'où le fait qu'on s'est retrouvé à remonter jusqu'à la fin du 19e siècle, avec les théories sur la frontière et puis l'immigrant de Chaplin en 1917. Et alors, le risque de ça, c'est de voir des road movies partout. Vous savez, quand vous travaillez sur un sujet, vous avez votre focal road movie et tout devient road movie. Or, on y reviendra, il suffit pas d'une voiture, d'un peu de macadam et puis d'un peu de mouvement pour qu'il y ait un road movie. C'est un peu plus exigeant que ça. Enfin, espérons.
Mais oui, pardon. Non, juste ça, c'est qu'effectivement, si on est remonté, j'allais dire, si loin en arrière, et que ça nous a paru possible, c'est parce qu'en fait, comme tu le dis, en travaillant, on s'est rendu compte d'une chose, en fait, qui était évidente, c'est que aux États-Unis, la route est une culture, et que la culture de la route, qu'elle soit en cinéma, en photographie, en littérature, en musique, elle est là, et on peut prendre des exemples à foison, elle est là tout le temps. Donc, d'une certaine manière, certes, le soi-disant genre a trouvé son nom, comme on l'a dit dans les années 70, mais enfin, la culture de la route, elle se confond avec l'histoire du pays, ne serait-ce que la conquête de l'Ouest.
Alors voilà, donc, dans ce cas-là, commençons par là, plutôt que commencer par Oz et les raisins. C'est-à-dire qu'effectivement, vous évoquez culture de la route d'un côté et question de la frontière de l'autre. C'est-à-dire que nous, en bon européen, on considère que la frontière, c'est ce qui sépare deux pays, et que quand ça bouge, généralement, c'est l'occasion d'une guerre. Pour les Américains, c'est un concept fondamental, c'est un concept qui est surtout valorisé à la fin du 19e par un penseur, mais c'est une chose mouvante. Et cette chose-là, effectivement, elle est constitutive de l'identité des États-Unis.
Mais oui, parce que l'histoire américaine, c'est une histoire de l'espace. Et à partir du moment où on dit que l'histoire américaine, c'est une histoire de l'espace, c'est déjà une histoire de la traversée de cet espace, de la transhumance, du nomadisme, de l'avancée, voire de la conquête. Et cette notion de frontière, pour faire vite, effectivement, c'est une ligne d'avancée, en quelque sorte, réelle et imaginaire, de la civilisation à la fin du 19e siècle, au moment de la conquête de l'Ouest, et qui avancerait dans des terres supposément vierges, supposément, et qui, en quelque sorte, signifierait les espaces de la civilisation qui avancerait vers son destin. Voilà, une sorte de destinée manifeste qui serait celle de la conquête d'un espace disponible. Alors, après, on ne reviendra pas tout de suite sur la question d'espace supposément vierge, mais toujours est-il que cette idée de traverser un espace pour faire histoire, sa propre histoire, c'est déjà sinon un road movie, du moins un road trip.
Oui, d'ailleurs, il faut dire, parce que le penseur dont vous parliez, juste pour préciser, hein, c'est quelqu'un qui s'appelle Frederick Judson Turner, qui en 1893, à l'occasion de l'exposition universelle de Chicago, va inventer ce fameux concept dont vous parliez, qui est le concept de la frontière. Il dit, grosso modo, et il l'invente en 1893, au moment où le concept prend fin. D'ailleurs, leçon qui nous intéresse en général, c'est qu'on met des mots sur quelque chose, généralement une fois que l'événement ou le phénomène a disparu. Chacun trouvera les exemples qu'il veut. Et donc, d'un seul coup, les Américains apprennent que finalement, ce qui les rassemble, ce qui les définit en tant qu'Américains, c'est la frontière. Alors, on a enfin mis un mot, on pourrait dire, là-dessus. Et donc, comme le dit Bernard, la frontière, à la différence de nous, Européens, dont on a une conception, en fait, on pourrait presque dire figée, immobile. La frontière, c'est ce qui sépare deux entités qui n'ont pas vocation, en fait, à mordre l'une sur l'autre. Aux États-Unis, la frontière n'est pas une ligne figée, c'est une dynamique, ce qui change tout. Et quand on dit dynamique, ça veut dire mouvement. Autrement dit, cette idée de la conquête de l'Ouest que va prendre en charge le western, le fameux... Bon, genre américain par excellence dont parlait André Bazin, le western va raconter pour les Américains l'histoire de leur pays avec un temps de retard. Et il va raconter l'histoire, il va aussi la réécrire, cette histoire-là. Quand Bernard parlait effectivement de ces terres supposément vierges, le fameux wilderness contre lequel la civilisation tente d'avancer, elles sont supposément parce qu'il y avait évidemment des Indiens natifs qui était là avant. Et il faudra du temps au moment de la réécriture du western et plus tard pris en charge notamment par le road movie des années 70 pour que réapparaisse ce peuple invisible, oublié, massacré, etc. Et ça, le road movie va permettre à un moment donné de le prendre en charge. Donc tout ça pour dire que si on revient aux origines de l'Amérique, il y a cette question évidemment de la frontière, et puis on y reviendra sans doute après, l'Amérique, c'est une, on pourrait presque dire, c'est une, à l'origine une construction fantasmatique de l'Europe. Pour faire court. Donc, on fuit l'Europe pour mille raisons, économiques, historiques, sociales, etc. Donc
à la fin du 19e siècle.
À la fin du 19e, on arrive aux États-Unis généralement, et je pense que Bernard vous en parlera juste après, par un endroit, une porte d'entrée. On pourrait peut dire le Stargate de l'époque, si on veut, qui est Ellis Island. Et là, il faut passer quand même le cap. Alors, il y a fichage, d'où ça vient. On est. Et ensuite, c'est le départ sur le territoire américain. Autrement dit, le fait d'aller aux États-Unis, en fait, c'est quasiment aller prendre la route. C'est la même chose. Et l'Europe, d'une certaine manière, refait sa vie, ou se donne une seconde chance, en prenant la route. Et c'est quelque chose, là, pour le coup, de profondément américain, y compris aujourd'hui. Et il y a un nombre de films incalculables qui ont mis ça en route, d'où souvent la naissance du road movie. Le road movie, dans les récits des films, il naît très souvent du fait que des gens ont envie de fuir quelque chose, ont envie de rebattre les cartes de leur vie, etc. C'est vraiment, c'est le premier geste de l'Américain lorsqu'il veut, il veut refaire sa vie, ou il veut rebattre les cartes, c'est de prendre sa voiture et de prendre la route. Or, le territoire américain, disons que ce qui sépare New York de Denver, ou alors l'Oregon, on pourrait dire de la Louisiane, c'est pas ce qui sépare Paris-Bordeaux. D'où, on y revient peut-être après, l'américanité profonde, en fait, du road movie. Donc, on pourrait presque dire qu'à l'origine, le road movie, c'est à la fois cette espèce de frontière qui, en réalité, est une dynamique, hein, et qui va justifier dans un premier temps le western, et que va reprendre le road movie, on pourrait presque dire, sur un autre mode, en voiture, etc. Mais, en fait, le road movie est l'enfant naturel, contrarié du western. Hein. Alors, il y a cet exemple qu'on cite toujours, mais que, pour ceux qui ont vu Easy Rider parmi vous, qui a vu Easy Rider parmi vous ? Voilà. Et dans Easy Rider, il y a cette séquence, ce plan extrêmement célèbre, lorsque les deux personnages joués par Dennis Hopper et Peter Fonda s'arrêtent à un moment donné pour réparer leur moto. Et on les voit comme ça à côté de leur moto, à genoux. Et derrière, on a deux hommes avec des chevaux qui sont en train de réparer les fers en fait, des chevaux. Donc le lien entre le road movie et le western, autrement, comme si le road movie affichait à même l'image sa propre généalogie. Et d'où le fait que quand on s'est mis à travailler sur le road movie, retournant en arrière, on allait vers l'origine du genre. De fait, le western était le genre roi. Il fallait qu'on en passe par le road movie parce que, encore une fois, le road movie est un développement en fait du western à une autre époque, puisque évidemment, autant le western écrivait la mythologie. Si on fait de l'historiographie, je veux dire, hein, écrivait la mythologie de l'Amérique pour les Américains. D'ailleurs, pour beaucoup d'Américains, mais il n'y a pas que des Américains, mais l'histoire de l'Amérique se confond avec l'histoire des westerns américains. Souvent, ce qu'ils savent, c'est ce qu'ont raconté John Ford, Howard Hawks, Alan Ladd, Anthony. Enfin, ils ont, c'est vraiment ça, ce sont leurs manuels d'histoire, donc ce qui pose voilà, des problèmes. Hein, jusqu'à des films comme Liberty Valance en 63, qui nous dit qu'il y a peut-être un écart entre la façon dont le western a raconté l'histoire et puis ce qui s'est passé réellement. Donc, d'une certaine manière, ça, c'est l'histoire, on pourrait dire, du western. Et quand le road movie va prendre le relais, on pourrait dire, du western, il prend le relais en reprenant à son tour la route, mais il ne prend pas la route de la conquête de l'Ouest, d'Est en Ouest, et il invente d'autres types de chemins, et parfois des chemins inverses, comme s'il fallait avoir un regard rétrospectif sur l'histoire qu'on vient de subir avec le western, et reprenant la route, on y reviendrait peut-être après, en fait, il reconsidère au sens critique du terme, l'histoire racontée par le western. En fait, il revient sur ses pas, il revient sur les pas de l'histoire américaine racontée par le western, sur les pas de ce genre évidemment fondamental, mais il va d'une certaine manière le réévaluer, où il va faire rentrer une autre histoire, une contre-histoire dans cette histoire officielle qui a été racontée, et dans cette contre-histoire, il y a notamment évidemment les fameuses populations oubliées.
C'est pour ça que c'est par rapport à ce que vous dites, particulièrement intéressant que ce soit Ford qui soit à la fois le maître que l'on sait du western et l'une des matrices par les raisins de la colère. C'est-à-dire que la question justement des années 30, elle est aussi fondamentale comme autre moment, après le moment de la frontière, comme autre moment de l'histoire américaine. Et donc vous dites vous-même, on y reviendra après, que là aussi, est-ce que c'est la représentation des années 30 ou des années 30 elles-mêmes qui importe dans le road movie? C'est une vraie question, mais je voudrais simplement, pour essayer de faire les choses raisonnablement dans l'ordre.
On a déjà pris les chemins de travers.
Oui, je fondais assez peu d'espoir, mais c'est pas... Mais on préfère ces chemins-là au highway. Juste qu'on reste un tout petit peu sur Ellis Island, parce qu'il me semble que c'est vraiment important, puisque vous prenez l'exemple d'America America de Kazan, par exemple, l'idée c'est que, et ça c'est assez beau, c'est qu'il peut y avoir, même si c'est le road movie d'une opération américaine, il y a une partie qui peut se dérouler hors des États-Unis, et que c'est le fait d'y arriver, mais qui est déjà une opération américaine, puisque l'horizon, c'est déjà les États-Unis. Donc, pourquoi ça vous semblait important de passer par Ellis Island pour évoquer le road movie?
D'abord parce que c'est un endroit à la fois réel et mythique. Aussi parce que c'est un Ellis Island donc, qui est dans la baie d'Hudson, donc sur la côte est, la porte d'entrée, en quelque sorte, de l'espace américain. On s'est dit ensemble, mais quelle histoire raconte ce lieu s'il est lui-même la porte d'entrée de l'espace et si l'espace est la condition du road movie, puisque c'est ça qui nous intéresse. Et puis, cette phrase de Don DeLillo, l'Amérique est le mythe du monde. Si l'Amérique est le mythe du monde, du moins, pour les immigrants des années de la fin du 19e siècle, que ce soit les Irlandais qui connaissent la famine ou d'autres peuplades européennes qui fuient des pogroms ou qui fuient la misère ou qui rêvent de faire fortune aux États-Unis, on leur raconte que les routes sont pavées d'or, et bien effectivement, l'Amérique fait rêver. L'Amérique est un mythe. Donc, qu'est-ce qu'on pouvait dire à partir d'Ellis Island? Ben, dire d'Ellis Island que déjà, c'est un terminus. C'est évidemment une porte d'entrée. Mais pour y accéder, pour y arriver, bah, faut traverser un océan. Et parfois, il faut avoir traversé son propre pays d'origine pour prendre le bateau. Donc, c'est cet emboîtement d'espace qui nous a intéressés. Et vous citiez l'exemple de America, America d'Elia Kazan, qui est un film de 1963. Le film dure 3 heures. Et la partie qui se déroule, j'allais dire, même pas aux États-Unis, puisque quand le personnage principal accède enfin au sol américain, le film se termine. Et donc la dernière partie du film, le dernier quart d'heure, c'est se passe à Ellis Island, un Ellis Island reconstitué. Ce lieu, cette île comme ça, à l'entrée de New York, où on doit en quelque sorte montrer patte blanche, voire changer de nom pour pouvoir rentrer dans l'espace et donc dans l'histoire américaine. Mais le film d'Elia Kazan, America, America, pendant donc 2h15, va raconter le périple et les turpitudes et les avanies de cet homme qui a décidé de quitter son pays où il ne veut plus vivre pour accéder enfin à ce sol-là. Il faut 2h15 à Elia Kazan pour raconter un voyage qui lui-même est le prélude à une vie dans un pays fait pour le voyage. Voilà. Alors, et puis, il y avait l'autre idée aussi qui nous a animés à propos d'Ellis Island, c'est le film de Chaplin. 1917, les migrants, Charlot, l'errant par définition, le juif errant si on veut, en tout cas celui qui a vocation à prendre la route ou en tout cas à se mettre en route. On s'est dit, mais voilà, mais dès le début du cinéma, la question de passer la frontière d'Ellis Island, d'entrer dans l'espace américain, elle est posée par le cinéma américain. Et donc, c'est à partir de là c'est comme ça qu'on a travaillé. On s'est dit, mais est-ce qu'il y a d'autres films qui pourraient entrer dans un corpus Ellis Island? On a pensé alors à ce moment-là au film de Georges Perec et de Robert Bobert qui s'appelle Récit d'Ellis Island, magnifique, documentaire. Mais on a vu aussi. Alors là, après, c'est notre imaginaire qui s'engouffre. On a vu dans un film, dans la fin, par exemple, d'un film comme Point Limite Zéro, je ne peux pas vous la décrire ici, sinon je vais spoiler, mais en tout cas, dans ce qui arrête le héros dans sa course, on y a vu, nous, les portes d'Ellis Island. Voilà, c'est à partir de ces faits historiques et de ces rêveries à partir des films qu'on a imaginé un chapitre entier consacré à Ellis Island.
Oui, et d'ailleurs, puisqu'on est sur les matrices, pour reboucler peut-être avec le magicien d'Oz, parce qu'on a donné l'eau à la bouche et on a parlé. le road movie, il faut bien comprendre que cette question en fait, de la route américaine, en fait, pour quelle raison on prend la route ? Il y a la première raison qui est celle que vient de décrire Bernard. Cette idée pour le coup, on y reviendra, d'un pays d'ose au-delà de l'Atlantique, pour ceux qui viennent d'Europe. Bon, donc, ça va être mieux, le pays, effectivement, les routes pavées d'or, le pays du lait et du miel, etc. etc. Enfin, phrase des raisins de la colère de Ford, etc. Bon. Mais une fois que le road movie a commencé, on pourrait dire, à être repris en charge à la fin des années 60, autrement dit, après le western, qui en fait a collé à cette aventure-là, puisqu'on n'avait pas le temps de réfléchir à soi, pourquoi on prend la route, il faut faire progresser la frontière, il faut manger le territoire de la sauvagerie pour imposer, évangéliser aussi le territoire américain. De cette manière, l'esprit collectif à ce moment-là, il est totalement mobilisé et focalisé sur cette espèce de mouvement national qui est d'atteindre la côte pacifique et de supprimer de toutes ces poches, on pourrait dire, sauvages. À partir de la fin des années 60, quand le road movie arrive, le fameux road movie le plus célèbre aujourd'hui, Easy Rider et consorts, et qui donc il prend le relais du western, on ne prend plus la route pour la même raison. On continue de la prendre, c'est dans l'ADN américain, etc. Mais on la prend, on sait ce qu'on disait tout à l'heure, en sens inverse, donc on ne va pas rejouer la conquête de l'Ouest. Elle a eu lieu, elle a été réglée, elle a été racontée. Donc qu'est-ce qu'on peut prendre, faire comme nouveau trajet ? Alors, effectivement, on repart de l'Ouest-Est, des trajets Nord-Sud, d'où le fait dans le bouquin, nous, on s'est amusé à mettre au point une sorte de carte qui raconte les trajets de fiction des films. Et on se rend compte que la plupart, en fait, n'épousent plus du tout ce trajet originel qui est le trajet, en fait, Est-Ouest. Donc, et l'autre raison pour laquelle les Américains, mais encore aujourd'hui, c'est pour ça que je voulais rapidement revenir sur Le Magicien d'Oz, reprennent la route, c'est que si on prend la route, c'est pas comme les Européens. Par rapport à ce mouvement inaugural dont parlait Bernard, pour fuir quelque chose. On prend la route pour résoudre quelque chose, ce qui n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, les convois des braves, pour prendre le titre d'un film de Ford, en gros, ont des origines européennes. Eux, ils savent toujours ce qu'ils ont fui. Et que l'Indien, avec ses flèches, ça sera toujours moins pire que la famine ou les pogroms. D'une certaine manière, ce motif et cette cause, cette raison historique, ils l'ont. À partir de Road Movie, fin des années 60, on est après les Glorieuses, après les années 50, le miracle, le Vietnam, les droits civiques, l'opulence, etc. Tout a complètement changé. Donc on va prendre la route, d'une certaine manière, pour résoudre un problème qu'on a avec soi, avec son pays, avec sa famille ou autre. Donc la route devient un espace de résolution et pas un espace, on pourrait dire, de promesses enchantées. C'est pour ça que Le Magicien d'Oz est vraiment un film de 39 et c'est pas un film de 69. En 69, Dieu sait que le film va infuser considérablement dans l'imaginaire américain, de la pop culture américaine, y compris dans les road movies des années 70. Mais Le Magicien d'Oz, en rappelant en deux secondes l'argument du film, tout le monde a vu, j'imagine, Le Magicien d'Oz, ou même ceux qui n'ont pas vu le film le connaissent. Ça fait partie de ces films qu'on connaît même sans avoir vu. C'est l'histoire d'une petite gamine, Dorothy, jouée par Judy Garland, qui en fait habite dans son Kansas natal. On est en plein cœur du Midwest, on est en 39, après les Dust Bowl, on est après la Dépression, qui sont à peu près, c'est le même moment, c'est le même univers que les Raisins de la Colère, si ce n'est que l'hypothèse de Ford serait évidemment différente. Et cette petite gamine vit dans son petit Kansas, filmé en sépia, alors par King Vidor, parce que c'est un film collectif, etc., même si ça fait toujours beaucoup de mal aux amateurs de la politique des auteurs à penser un film qui ne rentre pas là-dedans, mais c'est un autre sujet. Et puis un jour, et cette gamine, elle rêve d'un ailleurs. Elle est vraiment le personnage presque prototypique du road movie. Elle rêve d'un ailleurs. En fait, elle ne le formule pas comme ça, mais elle a envie de prendre la route pour échapper à ce Kansas un peu gris.
C'est ce qu'elle chante. Voilà. Somewhere over the rainbow.
Voilà. Quelque part, au-delà de l'arc-en-ciel, il y a mon pays, le fameux pays d'Oz. Et puis un jour, une bourrasque, pour faire court, elle est dans sa chambre, les vaches volent, son lit, etc. Et là, elle se retrouve en deux temps, trois mouvements, au centre d'un pays qu'on va appeler le pays d'Oz. On est passé du noir et blanc à la couleur. Et là, elle va passer son aventure. Elle a fait ce trajet atmosphérique avec son petit chien Toto. Elle va passer son aventure à aller chercher, de certaine manière, le grand Manitou de cette cité, la cité d'Émeraude, le pays d'Oz. Et finalement, donc elle fait ce grand trajet au pays d'Oz, coloré, tout le monde a en tête les numéros musicaux, etc. Et puis, à la fin du film, donc elle découvre ce magicien qui est un espèce de type ventripotent ridicule, donc un peu décevant de certaine manière. C'est aussi un film sur la déception de certaine manière. Comment est-ce qu'on apprend, comment est-ce que la déception nous apprend des choses? On pensait que quelqu'un allait nous donner quelque chose, en fait c'est quelque chose qu'on avait en soi. Et puis il y a, nous, ce qui nous a beaucoup intéressé, c'est évidemment ce dialogue qu'elle a à la toute fin avant de rentrer chez elle, parce qu'elle se, elle dira à la fin, on pourrait presque dire en contre-champ de Somewhere Over the Rainbow, elle dira cette fameuse phrase, There is no place like home. En fait, il n'y a pas mieux que chez soi. Alors on se dit, bah, pour un amateur, pour un roadrunner, c'est un peu court, quoi. Et donc, elle se retrouve face à la Fée du Nord, et là, ce dialogue absolument génial. Et elle lui dit, bah, la Fée du Nord lui dit, mais tu sais, tu aurais, dès le départ, le secret était enfoui en toi, tu aurais très bien pu rentrer chez toi très rapidement, etc. Et alors, à ce moment-là, l'un des compagnons de Dorothy lui dit, mais pourquoi vous ne l'avez pas dit plus tôt? Je veux dire, ça, elle essaie de rentrer chez elle depuis des lustres, et il a fallu qu'elle fasse tout ce trajet au milieu des champignons colorés en pays de rager, quoi. Et là, la Fée lui dit, oui, mais d'une certaine manière, il fallait qu'elle fasse tout ce trajet, qu'elle a à la rencontre de son pays d'os pour savoir qu'il ne fallait pas le faire. Et ça, c'est une idée à la fois narrative, un peu folle, enchanteresse, qui est et on pourrait dire un os théorique qu'on a bien rongé, de certaine manière. Autrement dit, dans le road movie, c'est une des lois, on pourrait dire, de ce genre qui n'en est pas un. En fait, il faut, d'où la résolution, il faut souvent prendre la route pour se rendre compte qu'il ne fallait pas la prendre. Ça a l'air paradoxal, mais c'est presque l'aventure, et notamment l'aventure du roadrunner, et notamment des années 70. Autrement dit, la route, non seulement elle résout un problème personnel, puisque fait qu'en avançant, on recule en soi, et surtout, elle débloque un savoir qu'on a au fond de soi. Mais ce savoir qu'on a au fond de soi, en fait, ne pourra pas être débloqué si on n'a pas pris la route. On pourrait presque dire que c'est le niveau 2, la deuxième fonction, en fait, du road movie. D'où ce qu'on a appelé, finalement, plutôt que le magicien d'Oz, le principe d'Oz, dont on s'est rendu compte que, en fait, il organisait un nombre incalculable, en fait, de road movie, jusqu'à devenir une sorte de fantôme, de citation, de passage obligé, de Sailor et Lula à Boxcar Bertha de Martin Scorsese. Enfin, le nombre de films américains, et notamment de road movie, qui à un moment en passe par l'aventure du magicien d'Oz, était quelque chose d'assez saisissant, quoi.
Et en ajoutant juste que le magicien d'Oz a tellement frappé les esprits des personnages et des auteurs dans les années 70, qu'ils ont tous pensé que ça allait marcher pour eux de la même manière. C'est-à-dire que s'il y avait un aller vers le pays d'Oz, il y avait un retour au Kansas. Sauf qu'en 30 ans, ce qui s'est déglingué, c'est l'idée de l'aller-retour. C'est-à-dire que dans les années 70, tous les road movies qu'on peut répertorier ont une fin tragique. C'est-à-dire que le retour est catastrophique.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour.
C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de retour. C'est-à-dire, voilà, l'épouvantail de Jerry Schatzberg avec Gene Hackman et Al Pacino, la fin est catastrophique. Le point limite zéro, la fin est catastrophique. Easy Rider, idem, Macadam à deux voies, enfin, tous les films auxquels on peut penser dans les années 70 partent avec quand même en tête soit l'idée de trouver un home quelque part, enfin, une maison d'accueil, un lieu ailleurs, comme si l'ailleurs, la promesse de l'ailleurs était toujours la promesse d'une nouvelle vie, et en même temps, le rêve de ce retour, mais dont ils éprouvent à leur corps défendant qu'il est devenu littéralement impossible. C'est-à-dire qu'ils s'évanouissent dans le décor. Avec, je me souviens, la phrase de la tagline, la phrase pour vendre Easy Rider à l'époque, c'était « Un homme est parti à la recherche de son pays et le ne trouva nulle part ». Bon.
Mais ce qui évoque deux choses, c'est que, du coup, qu'est-ce qui fait, selon vous, la distinction entre le road movie et l'errance? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait, pourquoi est-ce que ce n'est pas un film d'errance, le road movie, mais c'était aussi comme un film dans lequel il y a une direction, que cette direction d'ailleurs soit droite ou spiralée, hein. C'est-à-dire que il y a vraiment, parce que ce que vous décrivez là, on pourrait aussi l'appliquer à tout un tas d'autres films, vous l'avez évoqué au début, je pense que c'est important, qu'est-ce qui fait qu'il ne suffit pas que deux personnes prennent la route pour que ce soit un road movie, mais que justement en quoi cette appellation par le principe d'Oz fait qu'il y a justement un parcours spécifique dans le road movie qui fait qu'il y a un genre en propre ou un motif en propre.
En deux secondes, mais je pense que l'errance, par définition, c'est l'absence de but. C'est l'absence de coordonnées spatiales. Or, la culture américaine et le cinéma américain, je pense qu'il y a, est totalement omnibulé par cette question, on pourrait dire, de la carte, du trajet d'un point A à un point B, et surtout de l'action. L'errance, c'est vraiment une figure européenne. Et d'ailleurs, les films américains sur l'errance ou les moments d'errance dans les films américains, généralement, quand la critique en parle, elle dit « Ah, c'est le moment européen du film américain. » C'est-à-dire qu'en gros, le personnage déambule, ne sait pas vraiment d'où il vient ni où il va, il ne veut pas faire grand-chose, il se laisse, d'une certaine manière, un peu guidé par les événements. La route, il ne faut pas oublier que la route, c'est quand même un tracé. Et quand on est sur la route, on est sur la route. C'est-à-dire qu'on avance, on peut pas, on doit aller à une certaine vitesse. On décide d'aller s'arrêter, faire de l'essence à une station-service, prendre un chemin de traverse qui peut être catastrophique, enfin peu importe. Donc moi, je pense que l'errance, pour le coup, est presque une espèce de, là pour le coup, n'a rien à voir en fait. Tu veux compléter, Bernard, avec le road movie.
Oui et non, parce que effectivement, l'errance est une catégorie de pensée presque européenne, mais qu'on va trouver dans le road movie, mais tardivement. C'est-à-dire que, par exemple, les films, on pourrait dire des années 80, de Gus Van Sant ou de Jim Jarmusch, qui sont presque identifiés comme des cinéastes américains européens, ces films-là, My Own Private Idaho ou Strangers in Paradise ou Down by Law, sont des films où là, on pourrait dire vraiment que le projet, d'ailleurs, le tracé dans l'espace est très différent du tracé des autres road movies. Là, c'est plutôt on descend dans le sud, mollement, vaguement, on y est, on s'y perd. Il y a quelque chose de l'ordre de l'évanouissement, de la disparition. Et puis, le but poursuivi est tellement évanescent et mou que d'une certaine manière, oui, là, le road movie prend les couleurs de l'errance. Mais justement, avec des cinéastes qui sont, dont les références sont presque plus du côté du cinéma européen que du cinéma américain.
Avec, on peut penser, Wenders, qui fait le lien entre les deux, entre le Wenders européen et justement le Wenders américain de Paris, Texas, qui est entre les, qui a un pied sur chaque côté de l'errance et du road movie.
Ah ben, Wim Wenders, c'est à la fois le cinéphile parfait, amoureux de John Ford, faisant Paris, Texas par amour du continent américain, et en même temps, qui avait déjà fait des road movies en Allemagne, Faux Mouvement, par exemple, ou Alice dans les villes, et qui, lui, effectivement, serait presque le point de jonction entre, on pourrait dire, le road movie typiquement américain et le road movie américain à l'européenne. Et c'est là où je trouve la catégorie de l'errance prend son sens. Parce qu'effectivement, sinon, les personnages ou les films américains qui traversent l'espace sont vectorisés. Ils peuvent être vectorisés de manière catastrophique ou perdre leur boussole en route, mais ils ont un but. Ils ont un but.
Avec une dimension...
Enfin, à l'exception, pardon, de Macadam à deux voix, qui est le film de Monty Hellman, et qui lui aussi est un film beaucoup plus obsédé par Samuel Beckett et En attendant Godot que par John Ford. C'est presque une exception.
Officiellement, dans le film, ils ont un but. Ils sont censés arriver à un point. Ils l'oublient un peu en cours de route.
Mais ouais, ils vont de course.
En fait, je suis d'accord avec ce que dit Bernard, évidemment. De toute façon, je n'ai pas le choix. Mais, non, mais c'est qu'en fait, d'une certaine manière, l'errance, c'est une façon de dissoudre le principe du road movie. C'est pour ça que quand je disais que ça n'a pas de rapport, ça en a un, mais d'une certaine manière, choisissant l'errance... en fait, on s'oppose au principe même du road movie et tout ce qui véhicule d'un point de vue politique, historique ou autre, hein, parce que c'est pas l'espace américain. Traverser un espace, c'est pas quelque chose de neutre. L'espace, c'est ça qu'on dit l'espace, on a le sentiment que c'est une espèce de zone comme ça homogène qu'on traverse aux dizaines de miles. C'est pas vrai. On passe par des villes, on rencontre des gens qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas. Ce que je veux dire par là, c'est il y a des zones qui sont publiques, d'autres qui sont privées. Tout ça met en jeu d'une certaine manière une certaine vision de la société américaine qui passe par le road movie, par le déplacement, parce que dans le livre, c'est vrai qu'il y a, on tout à l'heure, effectivement, la route et la voiture ne suffisent pas à faire du road movie, comme c'est une dynamique, par contre, une piscine, un fleuve, peuvent faire road movie, d'où le fait que le lauréat, en tout cas pour sa toute fin, Apocalypse Now de Francis Ford Coppola, The Swimmer de Frank Perry, et même La mort aux trousses ou autre, on se dit, mais où sont les routes? Ben oui, je veux dire, les routes sont partout, mais elles ne sont pas pavées, on pourrait dire, de macadam. Donc, ce qui permet de comprendre que le road movie peut aussi se passer, en fait, de macadam. Par contre, pas de route. Il y a tout type de route, évidemment.
Vous évoquez la dimension politique, à la fois pour un peu en finir avec les années 30 tout en y restant. Il y a aussi la question des hobos. Vous évoquez le film de Wellman, Beggars...
Beggars of Life et Wild Boys of the Road, qui sont deux films,
très importants. Ce qui est intéressant, c'est que vous évoquez aussi Wellman pour Convoi de femmes. Mais ça, on y reviendra. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette figure-là, qui du coup n'est pas celle de la route du macadam, mais celle du train, celle-là a aussi une dimension politique, qui est l'errance liée à la pauvreté et généralement des gens qui sont dans un rapport à la loi, qui est un rapport d'illégalité.
Là, c'est moins l'errance dans les années 30 que le road movie contraint ou le road trip contraint. C'est-à-dire que dans les années 30, du fait de la dépression, du fait de l'assèchement des sols pour les fermiers et les hypothèques par rapport aux banques, les banques rachetant leurs propriétés, l'obligation pour des centaines de milliers de personnes dans les années 30, hein, ça se compte en millions sur la décennie, l'obligation de prendre la route, c'est-à-dire de quitter le Kansas, l'Arkansas, et d'aller, c'est leur but, en Californie, pays du lait et du miel. C'est ce que raconte le livre de John Steinbeck, Des raisins de la colère, et c'est ce que va filmer quelques mois après John Ford. C'est-à-dire cette idée que, d'une certaine manière, là aussi, dès qu'on est défavorisé par le destin, et c'est leur cas, la solution, c'est de prendre la route. Dès qu'on est traumatisé, on prend la route. La route comme solution, la route comme remède, la route comme hypothèse d'un avenir. Voilà. Voilà, pouvoir presque de thaumaturge de la route qui fait que la route guérirait. Et mais avec cette idée dans les années 30 que c'est un road movie d'une certaine manière contraint. Ce que, alors là, c'est ce qu'on essaie d'expliquer dans le livre, ce que les années 70 ont retenu des années 30 est une pure chimère. C'est-à-dire que on aurait voulu, les uns et les autres, vivre à peu près à toute époque, sauf dans les années 30, tellement c'était dur, on mourait de faim aux États-Unis. Mais dans les années 70, tout d'un coup, les années 30, de par Les raisins de la colère, de par le travail de Ford, de par tout un travail photographique, est devenu presque un pays d'ose. C'est-à-dire, pour les années 70, c'est là que le véritable Américain s'est révélé. C'est dans le dénuement, c'est dans la difficulté qu'il a prouvé ses valeurs, sa force, ses capacités. Et tout d'un coup, les années 30, en quelque sorte, dans les films, dans les road movies des années 70, sont devenus désirables. Et on compte comme ça beaucoup de road movies qui, pour ne parler que de cela, se déroulent dans les années 30. Bonnie and Clyde, Dillinger, En route pour la gloire, tout ça sont des films de la fin des années 60-70, mais qui ont choisi, L'Empereur du Nord de Robert Aldrich, choisissent de se passer dans les années 30, comme s'il y avait là, paradoxalement, presque un secret perdu de l'Amérique, un ADN avec lequel on allait pouvoir se reconnecter. Quoi.
Et d'ailleurs, d'abord, il y a sans doute une raison plus cinéphilique à cette espèce de relation d'amour fantasmée entre les années 70 et les années 30, ce qui grosso modo veut dire entre le nouvel Hollywood et les années 30, c'est que pour beaucoup en fait d'historiens du cinéma, la genèse de cette espèce de d'âge d'or dernier, chacun décidera, du cinéma américain, en fait, elle est à chercher non pas dans les années 50, évidemment pas, puisque les années 70 se sont notamment dans le cinéma américain, mais pas uniquement, en grande partie construit contre les années 50. C'est important aussi de se construire contre, on ne se construit pas uniquement avec. Mais en fait, la genèse, l'origine de ces années 70, de Nouvelle Hollywood, ils sont souvent allés la chercher dans les années 30. Comme s'il y avait eu un moment dans l'histoire du cinéma américain, et je ne pas trop rentrer là-dedans, mais en gros entre 30 et 34, qui est le moment de la période de ce qu'on appelle le pré-code, avant que le code de censure, le code se mette en route et fasse un peu la police des images, des représentations, et fasse une liste de tabous qu'on ne pouvait plus montrer, de liens entre les hommes et les femmes, entre les noirs et les blancs, le rapport, les sujets qu'on ne pouvait pas aborder. Mais il y a eu un moment miraculeux, de liberté complètement dingue dans le cinéma américain entre 30 et 34. Bon, que les cinéphiles ont redécouvert plus tôt, notamment en France, un peu sur le tard, il y a une quinzaine d'années, on en parlait encore peu avant. Et donc on s'est dit, bah, finalement, l'origine des 70s, cette liberté retrouvée, où on retrouve à la fois, on pourrait dire, de la liberté politique, on retrouve de la violence, du sexe, on a l'impression que tout se libère, la chute du code en 68, bien entendu, mais quand même, en fait, elle a eu lieu pendant 4 ans, comme si les années 70, et je parle de Nouvelle Hollywood, hein, je ne parle pas de toutes les années 70, Nouvelle Hollywood, reprenait un fil interrompu en 34. Donc, je pense qu'il y a aussi... Et des gens que, voilà, et je pense des gens comme Scorsese qui sont plutôt des cinéastes cinéphiles et même tous les cinéastes de cette période-là le sont. En fait, ils paient leur dette en se disant on n'est pas né ex nihilo. Bien entendu, on a choisi alors pour les années 70 certains films de Ford, on a quelques-uns nos maîtres Hawks, etc., etc. Mais en fait, on reprend une histoire interrompue en 1934. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que les années 30 et ce qui se passe avec effectivement les Dust Bowl, ces grands départs exil depuis le Midwest vers l'ouest des États-Unis, et singulièrement la Californie, c'est qu'il va d'un seul coup, les Américains, ce qui n'était pas vraiment le cas avant, vont partir à la rencontre d'eux-mêmes. C'est-à-dire que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et là, encore une fois, c'est un des traits, on pourrait dire, définitoire de ce qu'on pourrait appeler avec beaucoup de guillemets le road movie. C'est que dans les années 30, si on prend, je prends juste deux exemples, et alors je mets de côté le raisin de la colère, qui est à peu près l'exemple tout terrain, qui sert pour tout. Mais à part cette statue du commandeur, ce totem qui est les raisins de la colère, il y a un film comme New York, Miami de Frank Capra, ou Les Voyages de Sullivan de Preston Sturges, qui sont des films, là, pour le coup, des années 30, et qui racontent, grosso modo, systématiquement, des gens d'une certaine classe sociale, plutôt privilégiée, l'un du milieu plutôt de Wall Street, de la banque de New York, l'autre du milieu du cinéma hollywoodien, un réalisateur à qui on demande de faire un film sur le peuple, et il dit, mais moi, le peuple, je le connais pas. Il faut que j'y aille. Et le peuple, dans les années 30, c'est prendre une tenue de hobo et aller sur les routes pour se mêler à tous ces gens chassés du Midwest. Autrement dit, il y a dans les années 30 cette idée que prendre la route, comme si on ajoutait une nouvelle corde à l'arc du road movie, c'est pas uniquement résoudre un truc pour soi, effectivement, aller au pays vers le pays d'Oz ou repenser l'histoire ou autre, c'est tout simplement aller à la rencontre du peuple américain. Se compter, se voir, se vérifier, parce que c'est facile de dire je suis américain, mais c'est quoi là, le point commun, à ce moment-là, on pourrait dire entre un Américain du Midwest, de l'Oregon, de la Louisiane ou de Boston. Et ça, c'est très important, même dans l'ADN américain encore aujourd'hui. Et donc, ils vont prendre la route, mais pour le coup, sous une version presque, par moments, un peu enchanteresse. Et les films célèbrent tout, on a tout perdu, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de terre, etc., etc. Mais il y a encore un peuple et il y a cette séquence extrêmement célèbre de New York-Miami dans un bus entre Clark Gable et Claudette Colbert, qui sont mieux de passagers venus de tout de toutes origines sociales, ethniques, vivant de différents coins des États-Unis, qui vont ensemble chanter une chanson. Alors tant qu'il y a ça, en fait, tout va bien. Hein. Le peuple, il existe. T'as que deux, voilà. Et ce qui va se passer, en fait, après la fin des années 60, c'est que pour des raisons historiques liées à l'histoire des États-Unis, les assassinats politiques, la guerre du Vietnam, les droits civiques, la récession économique, etc., le road movie va être une manière aussi pour les cinéastes américains, comme les cinéastes l'ont fait dans les années 30, d'aller reprendre la température des États-Unis et du peuple américain. Quid du peuple américain dans les années 70? Et là, c'est la déconvenue. Grosso modo. Et nous, on a un chapitre dans le livre qui s'appelle Ensemble, hein, qui qui se pose cette question justement. Finalement, le road movie dans les années 70, il reprend la route. On pourrait presque dire conformément à une tradition qui remonte à loin, etc. Reprenant la route, il va à la rencontre de l'autre, du peuple américain. Mais cette rencontre, elle se passe globalement très mal. Et d'ailleurs, je termine juste. Alors, jusqu'à créer, nous, on a pensé que le survival movie de Psychose à Massacre à la tronçonneuse à Délivrance appartient au road movie en tant que road movie avorté et catastrophique. Moi, je pense que Délivrance et Massacre à la tronçonneuse, pour ceux qui ont vu Massacre à la tronçonneuse, ça devrait être à l'origine, c'est un road movie. On prend le van, le Volkswagen typique Flower Power de l'époque, on lit des guides d'astrologie, on va sur la route, tout va bien, on fume des joints. Puis un jour, on s'arrête dans un cimetière et là, on rencontre le peuple. Et le peuple, il ressemble à Leatherface. Ça va moins bien se passer, en fait, que dans New York, Miami, de Capra. Et tout ça pour dire que cette rencontre avec le peuple, elle devient en fait absolument centrale. Et donc, de cette manière, c'est prendre le thermomètre de l'état du peuple. Et alors, il faut, pour être tout à fait honnête, ça ira jusqu'à Robert Kramer, peut-être quand tu en diras un mot, en Route One US, évidemment. Et puis, ça me fait juste penser au photographe Robert Franck, hein, qui va publier d'abord en France. et aux États-Unis, donc les Américains, on est en 58, préface de Jack Kerouac. C'est quand même là l'homme de Sur la route, qui est presque un des livres fondateurs, évidemment, du road movie. Et les Américains, c'est quoi? C'est ce photographe d'origine suisse. Je crois qu'il a eu la nationalité russe, si je ne dis pas de bêtises. Il avait fui la persécution. Il arrive aux États-Unis, à New York d'abord, au milieu des années 40. Et il va, grâce à une bourse, je crois que c'est la fondation Guggenheim, d'ailleurs, qui lui donne une bourse. Et pendant 2 ans, il va voyager aux États-Unis avec sa famille et prendre des photos. Autrement dit, ce que fait Robert Frank en 55, 56, 57, c'est qu'il fait la même chose que tous ces cinéastes ou écrivains qui est qu'à un moment donné, pour reprendre la température ou faire un état des lieux de l'Amérique, il faut prendre la route. On peut pas, c'est pour ça que les gens qui partent de l'Amérique et qui bougent pas de New York, de Boston ou Philadelphie, ça marche pas comme ça. C'est dans l'ADN américain et même en tant que touriste. Parce que si on pense que les États-Unis, c'est rester à New York pendant 2 semaines, prendre l'avion, aller à Boston et puis reprendre, c'est pas ça du tout. La route fait partie de l'expérience américaine. Et Robert Frank fait donc ce livre qui s'appelle Les Américains, qui est un road movie photographique. Il ramène 22 ou 25 000 clichés. Il va en sélectionner 83 précisément pour ce livre qui va d'abord être refusé par les Américains, qui trouvent qu'il n'est pas très bien foutu, c'est pas très bien cadré, il y a du grain, ça un peu trop le réel, quoi. Et finalement, c'est la France qui va d'abord le publier avant que ça repubie aux États-Unis. Mais les Américains, c'est vraiment, on pourrait presque dire, un livre de photographique road movie qui en fait sort du point de vue de Robert Frank du même désir pour aller faire un état des lieux, un portrait de l'Amérique à un instant T de son histoire. Il n'y a pas d'autre moyen que d'aller prendre la route. Certains font des films, certains font des photos. Lui a fait des photos.
Avec une dimension juste avant que, avec une dimension importante qu'on entend dans ce que vous dites sur la question du survival, donc Massacre à la tronçonneuse, Délivrance, qui est aussi le rapport de l'espace et du temps. C'est-à-dire qu'il y a quand même le sentiment, parce que tout ça est quand même filmé du point de vue de gens qui viennent généralement des villes, qui eux se pense dans la modernité, et c'est là où on rejoint un peu Apocalypse Now et Au cœur des ténèbres, c'est-à-dire que le fait de remonter le fleuve, le fait de traverser la route, est perçu par ces personnes-là comme un regret dans le temps, c'est-à-dire qu'on va non pas, à la fois on prend le pouls du peuple américain, mais on voit aussi, on donne le sentiment qu'en fait ils sont quand même arriérés au sens chronologique.
Voilà, une phrase qui est la fameuse, une phrase de Frederick Jackson Turner, l'homme qui avait théorisé la frontière en 1893, il a une phrase qui doit être notre phrase boussole quand on réfléchit au cinéma américain ou quand on va là-bas, c'est aux États-Unis, l'espace est la mesure visible du temps. Donc prendre la route, c'est prendre d'une certaine manière la route du temps. Et plus on avance dans l'espace, c'est un paradoxe, mais qui n'en est pas tant que ça, plus on avance dans l'espace, plus on recule dans le temps. D'où la dimension historique, politique et critique du genre. C'est pas un espace neutre, la route. Je veux dire, entre le mile 0 et le mile 30, et ben peut-être qu'on a reculé de 20 ans. Et dans Massacre à la tronçonneuse, ben on est dans les années début des années 70, flower power quasiment caricatural, et à un moment donné, on tombe dans les années 30. Et les années 30, le problème, c'est qu'ils sont toujours vivants, et les abattoirs ont fermé, il n'y a plus de boulot, qu'est-ce qui se passe? Quand deux temporalités, années 30, comme Délivrance, on ne peut pas dire qu'ils ne puent pas la modernité, les joueurs de banjo de Délivrance, quoi. Mais ils appartiennent à une autre couche historique des États-Unis, et les États-Unis, c'est aussi beaucoup ça. Quand vous voyagez aux États-Unis, vous vous rendez compte que tout le pays, quels que soient les États où vous allez, les petites villes, ne sont pas à la même heure. Vous allez dans une petite ville du Tennessee aujourd'hui, et vous allez à Atlanta, vous allez à New York, vous vous dites, mais on est partout en 2026 ? Non. Et ça, il n'y a que la route, en fait, qui permet, d'une certaine manière, de faire l'expérience, et parfois catastrophique, en fait, de cette rencontre-là.
Alors, Bernard, effectivement, autant, je veux dire. Bernard, je veux bien, effectivement, que vous passiez un petit peu de temps sur le film de Robert Kramer, parce qu'on a cité beaucoup de films extrêmement connus. Celui-là, il est très important, mais il est peut-être moins connu aujourd'hui, d'un Courtois en USA, qui est 88, je crois, 89, et qui est l'histoire d'un retour, lui-même, et qui est pourtant un film qui donne là, qui dresse l'état d'un pays à un moment donné, c'est-à-dire à la fin du réganisme.
Ah oui, Route du USA, c'est un film tourné en 87, sorti en 88 et réalisé par Robert Kramer. Robert Kramer est un cinéaste américain, mais qui s'est absenté depuis 10 ans du pays pour des raisons politiques et pour faire des films ailleurs qu'aux États-Unis. Et Route du USA est le film de son retour dans son pays. Et pour faire retour dans son pays, son idée à lui aussi, elle est, je dirais, conforme à l'histoire des Américains, c'est-à-dire qu'il prend la route. Et le long de la côte Est, il va descendre jusqu'à la Floride par tous les moyens, mais surtout avec un documentaire qui, en quelque sorte, embarque un personnage de fiction. C'est un film passionnant, hein, qui dure 4 heures, et qui, avec un personnage de fiction, fait le documentaire de l'état de l'Amérique à la fin des années 80, et va de rencontre en rencontre, puisque ce que disait Jean-Baptiste est exact, c'est-à-dire que le road movie, c'est aussi ça qui le définit, c'est-à-dire aller à la rencontre du peuple, mais je dirais presque un par un. Je vais rencontrer celui-ci, je vais rencontrer celui-là, tiens, celui-ci vient à moi. Et le film est une constellation de rencontres, tout en avançant dans le territoire américain. Et je me souviens qu'à un moment, il filme des militaires, et un des militaires dit « la permissivité des années 70 est chose révolue ». Et le film, effectivement, prend acte du fait que depuis 8 ans, on est dans le régime reaganien des États-Unis et que le rapport, enfin, l'état du pays et le rapport des gens entre eux ne va plus de soi ou ne va plus de la même façon et que le pays, lui, est largement abîmé. Hein, c'est ça que, tout en ayant l'espoir que son film, en quelque sorte, fasse corps. C'est-à-dire que comme un membre ou comme un remembrement, que de filmer les uns et les autres, là encore, referait peuple. Et le film témoigne de cette ambition. Mais l'ambition de Robert Kramer, tu as cité Robert Frank, c'est une obsession qui travaille absolument, j'allais dire, on pourrait prendre des exemples en musique, on pourrait prendre des exemples en photographie. Mais par exemple, un exemple que j'aime beaucoup, c'est John Steinbeck. John Steinbeck, auteur des Raisins de la colère en 1939, enfin un livre indépassable, vendu à des millions d'exemplaires, une sorte de bible pour Américains. 20 ans après, John Steinbeck se dit, et dit dans les premières pages de son nouveau livre, il dit « ça fait 20 ans que je parle du peuple américain, mais en fait je suis un imposteur, je ne suis pas allé le voir ». Et donc, il décide, comme les autres, il prend une sorte de caravane qu'il appelle Rocinante, hein, allusion à Cervantes et à Don Quichotte, une sorte de caravane automotrice, et avec son chien, Charley, et donc le livre va s'appeler Travels with Charley, Voyage avec Charley, Charley c'est le chien, il décide, là encore, de bouffer des miles. Et il va faire, en 62, il va publier un livre qui s'appelle Voyage avec Charley, où il va raconter son voyage vers les Américains, au début des années 60, pour voir ce qui a changé. Et ce qu'il découvre en route, eh ben évidemment, c'est autre chose que le temps des raisins de la colère. Il découvre une Amérique normalisée, en voie de standardisation. Il découvre les diners qui se ressemblent. Il prend l'autoroute. Bref, et de loin en loin, quand même, il fait comme Robert Kramer. Il passe son temps à essayer d'établir un contact, de rentrer en relation avec un tel ou avec une telle, et que chacun lui raconte sa vie. Donc, on voit bien que, j'allais dire, le road movie, il se décline aussi bien en littérature qu'en photographie, parce que la culture de la route, elle irrigue absolument l'art américain. L'art américain.
On ne pourra pas évidemment évoquer tous les aspects du livre, et puis il faut que les lecteurs aient envie à la fois de l'acheter et de le lire. Mais justement, vous évoquiez le moment où tout se met à se ressembler, la question des autoroutes. Parmi les hypothèses extrêmement stimulantes du livre, il y a l'usage que vous faites de la mort aux trousses, c'est-à-dire à la fois comme contre-matrice, presque, on peut dire, du road movie, c'est-à-dire le moment où, parce qu'il y a un programme et qu'on n'est pas forcément maître du programme de la route qu'on prend, tout d'un coup, la route devient réseau et se met à disparaître sous tout un tas de ramifications qui, en fait, échappent à celui qui ne les voit pas et qui annonce, là, quasiment, et là, pour le coup, jusqu'à Matrix ou jusqu'à Tron, une vision de la route complètement différente.
Bah, enfin, vous avez déjà tout dit, Pierre.
Bah, oui. C'est ce que j'allais dire.
J'ai pas entendu de point d'interrogation à la fin, c'est pour cette raison. Acte manqué. Non, en fait, oui, évidemment, parce qu'il y a quelque chose qu'on a, pour le dire très vite, mais véritablement, c'est que on parle beaucoup depuis le début de l'espace américain. cette espèce d'espace évidemment gigantesque, à la fois très divers, la diversité des États, et qu'on prendrait la route, et comme ça, de façon presque un peu illusoire, on traverserait cet espace qui serait disponible. Or, il faut bien comprendre que le road movie, indépendamment de la question de la résolution pour soi, la question de la rencontre avec le peuple, et son côté presque thermomètre, c'est une manière état des lieux, donc on va la reprendre régulièrement, et ça nous donne des informations sur l'état du pays, historiquement, socialement, politiquement, etc. Il faudrait pas qu'on laisse croire que l'espace reste inchangé et ne change que les hommes, les histoires, les affects et les trajets personnels. En fait, ce qui se modifie quand même au cours du siècle, pour faire court, entre la fin de la frontière. Donc, on est 1893, mais grosso modo, on considère que c'est vraiment acquis au tout début du 20e. Hein, début, voilà. Vous regardez l'Or sauvage de Peckinpah, ça vous donne une bonne date de la vraie fin de l'Ouest. Entre ce moment-là et, on pourrait presque dire aujourd'hui, donc pendant 125 ans, l'espace, il a changé aux États-Unis. Non pas les contours de l'espace américain. Là, pour le coup, les frontières n'ont pas changé. Mais la nature de l'espace a changé. Autrement dit, cette espèce de disponibilité tous azimuts, hein, donc cette forme de promesse de liberté, donc, hein, on prend l'espace, il est à tout le monde. On prend la route 66, la route 50, etc. Je veux dire, la route est à tout le monde. Peu à peu, cette disponibilité, elle va fondre comme neige au soleil. Et le moment, pour faire court, très important dans cette espèce de privatisation, domestication, voire entertainisation de l'espace américain, ce sont les années 50. Les années 50, c'est le moment où l'espace américain se métamorphose et se transforme complètement. Avant, c'était grosso modo un espace libre. L'espace est pour tout le monde. Je m'arrête, je rencontre, je pose ma tente, mon camping-car, peu importe. Après les années 50, tout change. C'est évidemment les premières créations des highways. Les highways, c'est quoi? C'est une manière, en fait, de parcourir l'espace sans traverser. On peut faire 2000 miles aux États-Unis en fait en distance, hein, sans jamais croiser une petite ville, le peuple, etc. Donc en fait, on avale des kilomètres, mais on ne parcourt plus l'espace en tant qu'expérience métaphysique, individuelle, politique. Ça, c'est fini. Hein. C'est pour ça que les highways, c'est extrêmement important dans l'imaginaire de l'espace américain. Avant, non, c'était la route 66, pour faire court. Hein. Non. Et puis, vont arriver aussi dans les années 50, la création de ce qu'on appellera les fameux parcs nationaux. Vous avez vu aujourd'hui, vous allez à Grand Teton, à Yellowstone, à Grand Canyon, Death Valley, il y en a 150. Ce sont des parcs nationaux. Autrement dit, ce sont des espaces qui sont des espaces privatisés. Vous n'allez pas aujourd'hui à Monument Valley, comme ça. Vous n'êtes pas avec votre voiture à Monument Valley en disant, tiens, j'ai revu la prière du désert de Ford ou la charge héroïque, pourquoi j'irai pas vers, par exemple, Butte, etc. Non, on paye un péage, on prend son ticket, la voiture doit payer, les Amérindiens à qui on a donné la gestion de certains endroits de Monument Valley, etc. Autrement dit, on est nécessairement touriste. Et donc, là, pour le coup, il y a un vrai fantasme de ce moment où l'espace américain, dans le prolongement de la frontière, était un espace libre, disponible, démocratique, accessible à tous. Ça, c'est fini. Il y a quelques zones accessibles. Aujourd'hui, vous parcourez l'espace américain en grande partie, pas uniquement, j'exagère, mais en grande partie, en réalité, en touriste. Et La mort aux trousses est un film de ce moment-là. Et le film d'Hitchcock, il a eu la préscience de plein de choses, Hitchcock, hein, mais notamment dans La mort aux trousses, évidemment, ça peut sembler bizarre qu'on l'ait mis dans le road movie, mais pour nous, c'est vraiment le film qui anticipe, qui préfigure, qui a la préscience que le road movie, c'est fini. Autrement dit, le road movie classique, historique, je prends la route, je rencontre des gens, les espaces sont disponibles, l'espace égale liberté. Hein. Donc, quand je dis égale liberté, ça veut dire, je prenant position de l'espace, je prends position de ma vie. Ça, c'est complètement fini. Et là, avec La mort aux trousses, puisque La mort aux trousses raconte l'histoire d'un homme, tout simplement, joué par Cary Grant, qui a la faveur d'un mauvais geste, hein, à cause de sa mère. Il y a tout un scénario évidemment oedipien, très fort. Voilà, je me lance pas là-dedans. En fait, se retrouve pris dans une espèce de réseau. En fait, il se pris dans une sorte de cartographie dont il n'a pas les clés. Et il se rend compte que, pour le coup, la carte, hein, qui est une carte d'espion auquel il ne comprend rien, et même Hitchcock veut qu'on n'y comprenne rien, le seul élément important est masqué par un bruit d'avion dans le film, en fait, recouvre intégralement le territoire. Et donc, il se dit, je ne peux plus prendre la route parce que la route, elle est programmée, elle a été prévue par d'autres, j'ai rendez-vous à un endroit, je pense que finalement non, un avion sulfateur me tombe dessus, etc. Donc c'est un film théorique absolument passionnant pour cette raison-là. Donc il va devoir inventer, on pourrait dire, des routes je dirais, de résistance ou des chemins de traverse pour échapper à cet ancien espace américain qui maintenant est totalement quadrillé, surveillé, en fait détenu en fait par des entités, par des pouvoirs, etc. Et donc le road movie va de fait, il va mettre un peu de temps, comme toujours, les films matrices sont des films qui, en fait, qui mettent du temps à être digérés et dont la leçon met du temps à être retenue par le cinéma. Mais en fait, les années 70, la mort aux trousses, il va falloir le moment des années 70 pour, en gros, donner crédit à Hitchcock en disant « Vous avez raison, l'espace n'est plus comme il était, c'est plus comme avant. » Ok. Et ensuite, on arrive dans les années 80 jusqu'à Tron, Collateral, etc., où cette fois, une fois qu'on a fait le deuil de l'espace américain qui est devenu un espace touriste, hein, Lost in America d'Albert Brooks, début des années 80, on va passer cette fois aux routes de l'information. On pourrait dire, vous avez cité Matrix, etc. Le road movie aujourd'hui et toute sa leçon politique, sa promesse de liberté, etc., ne se joue plus dans l'espace matériel, concret, physique. Il se joue sur d'autres routes, en fait.
Et juste pour mémoire, je le cite parce que je trouve que, et on en parle dans le livre, en plus d'Hitchcock, il y a un autre cinéaste, et comme par hasard, c'est dans des westerns, c'est un cinéaste qui s'appelle Anthony Mann, et qui, dans les films qu'il fait avec James Stewart dans les années 50, en fait, parle de l'Amérique des années 50, tout en parlant de l'Amérique, dans la fiction, d'un siècle auparavant, et il raconte... disons, de Winchester 73 à Je suis un aventurier ou L'homme de la plaine, en fait, il raconte la privatisation progressive de l'espace. Et que James Stewart, qui est dans les 5 films qu'ils ont réalisés ensemble, ben, ne galope pas du tout de la même manière dans le premier et dans le dernier ou dans l'avant-dernier. Il est beaucoup plus empêché au fur et à mesure qu'il ne l'était dans Winchester 73. Donc voilà, et... c'est pas un hasard si c'est un western, parce que le western est la façon qu'a l'Amérique de se raconter son histoire. Et c'est pas un hasard si le western est évidemment le passager, pas clandestin du tout, embarqué par le road movie, parce qu'il parle des mêmes choses. Et la question de l'espace, elle est cruciale chez Anthony Mann, comme elle est théorisée chez Alfred Hitchcock, ou comme, si on en avait eu le temps, je vous aurais lu un passage de Voyage avec Charlie, où Steinbeck raconte ce que c'est que l'expérience de prendre l'autoroute.
Allez-y, allez-y, je vous en prie.
Alors, moi, je fais... enfin,
non, mais...
non, je vous lis une page, parce que je trouve ce moment passionnant. Dès le début de mon voyage, j'avais évité ces étendues bétonnées et goudronnées, baptisées voies rapides ou autoroutes. Selon les États, leur nom change. Mais j'avais musardé en Nouvelle-Angleterre, l'hiver s'installait et je m'imaginais bloqué par les neiges dans le Dakota du Nord. Je me mis donc à la recherche de la N90, cet axe à voies multiples qui balafre le paysage et sur lequel transitent les biens de la nation. Rocinante s'y précipita. Donc je vous ai dit, Rocinante, c'est son véhicule. La vitesse minima permise sur cette route était plus élevée que ce que je ne m'étais jamais autorisé jusque-là. Je sentais les coups de boutoir de l'air se cabrant sur mon passage. Je l'entendais gémir en se heurtant aux angles de la voiture. Ne pas s'arrêter, maintenir l'allure, me criaient les panneaux. Des camions longs comme des cargos passaient en ronflant, m'envoyant au passage des rafales de vent comme des coups de poing. Ces grandes routes sont merveilleusement adaptées au transport de marchandises, mais certainement pas à la contemplation du paysage. Vous êtes attaché au volant, le regard sautant de la voiture qui précède au rétroviseur, épiant l'auto ou le camion sur le point de vous doubler. Et en même temps, il vous faut lire toutes les signalisations de peur de manquer des instructions ou des ordres. Pas d'échoppe vendant du jus de courge, de magasins d'antiquités, pas de produits de la ferme ou d'artisanat local. Lorsque ces autoroutes traverseront tout le pays, et cela se fera, on pourra rouler de New York jusqu'en Californie sans rien voir.
Écoutez, merci beaucoup. Merci Bernard Benoliel, merci Jean-Baptiste Torret.